Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Fanny, nous sommes à votre stand donc, qui s'intitule
Debout Chaker.
Debout Chaker. Et c'est une association qui est vouée pour quelle personne?
Alors du coup, nous, on est une association qui œuvre pour la parentalité et la naissance. Donc on accompagne les parents en complément du suivi médical mis en place par des sages-femmes ou des gynécologues. Donc on les accompagne pendant la grossesse, voire l'accouchement et la période postnatale. Et on propose également des ateliers pour les parents en vue de la, pendant la grossesse pardon, et également dans la période postnatale.
Alors vous-même avez quand même une formation pour pratiquer cet atelier?
Oui, tout à fait, moi. Alors j'ai plusieurs formations, je suis accompagnante à la naissance depuis 2017, donc j'ai passé une formation de doula, on appelle ça comme ça, hein, avec l'association Doula de France. En 2017, et par la suite, j'ai passé une formation pour être monitrice de portage en 2021 avec l'association TELP.
Alors, pour rappeler un peu aux auditeurs ce qu'est le terme doula, que signifie-t-il?
Et donc, doula, ça veut dire accompagnante à la naissance, c'est-à-dire qu'on va accompagner les parents sur un volet plus émotionnel et information pendant la période justement de la grossesse, de l'accouchement ou de la période postnatale, sachant que ça se fait automatiquement en complément du suivi médical. On ne remplace pas le personnel médical, pas du tout. Au contraire, on va plutôt travailler ensemble avec eux justement pour compléter les informations, leur apporter surtout du soutien émotionnel et de l'écoute.
Alors à partir de combien de semaines vous intervenez?
Alors je peux intervenir dès la première semaine de grossesse, voire même parfois ça se fait avant, mais c'est rare quand même, ça peut être, c'est surtout pendant les premières semaines ou les premiers mois de grossesse. Après ça dépend vraiment du besoin de la famille, sachant qu'on accompagne du coup la maman, mais aussi le papa et la fratrie s'il y en a une.
Alors le papa également, lui-même est sollicité et se forme aussi auprès de vous?
Eh bien, en fait, on a aussi une posture d'écoute par rapport au papa, parce que le papa est parfois oublié dans ces périodes-là. Et lui aussi peut se sentir perdu, voire impuissant, notamment pendant la grossesse où il peut ne pas tout à fait saisir les besoins de sa compagne ou avoir du mal à lui trouver sa place également, pendant notamment la période postnatale et l'accouchement. Donc nous, on va les accompagner en écoutant leurs besoins, que ce soit au niveau de la mère ou du père, savoir comment ils peuvent se sentir utiles et accueillis aussi dans leurs ressentis. Et leurs besoins.
Vous n'avez pas un aspect médical, mais il y a une complémentarité, un échange avec le monde médical?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, actuellement, nous, on travaille aussi avec le cabinet de sage-femme libérale de Die, où on propose des ateliers de préparation au portage et à la parentalité. Donc, on est vraiment sur de la manipulation du bébé, de pourquoi on doit le manipuler d'une certaine manière ou d'une autre manière. Donc, on aborde beaucoup la physiologie et ça permet aussi aux parents de se rassurer par rapport à la venue d'un premier bébé, de comment je m'occupe de lui. Et après, on est vraiment en complément. C'est-à-dire que la sage-femme va vraiment s'occuper du volet médical, donner les informations qui la concernent au niveau médical, et nous on va être vraiment sur une explication plus approfondie sur les choix qui peuvent s'offrir aux parents. Et aussi s'ils ont besoin d'informations complémentaires sur les conséquences, les avantages de tel acte ou tel acte médical, les options qui s'offrent à eux également. Donc ça, la sage-femme le délivre également, hein, on ne la remplace pas, mais on va compléter ces informations avec parfois des informations que la sage-femme n'a pas le temps de donner, avec une disponibilité plus grande également parce qu'on a des plages horaires qui sont plus grandes. Ça va être par exemple sur est-ce que je veux faire en souvenir de mon accouchement une empreinte par exemple du placenta, même si c'est à l'hôpital, hein, parce qu'on n'a pas le droit de récupérer notre placenta, mais on va proposer des choses qui sont plus de l'ordre du souvenir, un petit peu comme des... j'aime pas trop ce mot parce qu'il est un peu connoté, mais le côté rituel, un petit côté sacré de cette naissance, un souvenir. Voilà, on va proposer par exemple du moulage de ventre pendant la grossesse, pour souvenir de la grossesse, ce genre de choses.
Oui, je vois sur le stand une petite effigie en terre crue. C'est un corps de femme enceinte. Ce sont aussi des pratiques de prise de conscience de la personne avec des ateliers où les mains pratiquent la création, par exemple, par sensation ou de restitution d'émotions.
Alors, ça peut, je ne propose pas des ateliers de poterie, hein, mais...
Non, mais c'est un moyen de s'exprimer peut-être ce qu'on a en soi.
Oui, en tout cas, ça passe vraiment par le corps. Hein. Au niveau des ateliers, tout ça, on peut être amené aussi à proposer des soins rebozo, par exemple. Le rebozo, c'est donc un tissu, une sorte de grosse écharpe mexicaine, avec comme un gros foulard. Et on peut proposer des bercements à la femme enceinte et aussi lui détendre le dos, par exemple, pendant la période de grossesse où il peut y avoir des tensions. Donc, on ne pratique pas des actes d'ostéopathie, hein, pas du tout. Mais on va juste venir... pratiquer des soins sur la femme enceinte pour essayer de la détendre, des petits massages légers, ce genre de choses. Voilà, ça passe beaucoup dans le corps, effectivement, et même pendant l'accouchement, lorsque on y est invité, avec accord de l'équipe médicale, encore une fois, eh ben, on peut aussi, on est beaucoup dans le corps, c'est quelque chose qui est important, le toucher, autant par rapport au bébé que par rapport à la femme enceinte qui a besoin d'être choyée, vu que c'est elle qui va mettre au monde et qui va devoir justement donner de l'amour. Donc on essaye d'apporter aussi du soutien et de l'amour, un peu comme une maman pourrait le faire, quoi.
Alors je vois là, il y a un classeur ouvert, je vois des propositions de massage pour bébé, mais aussi pour maman enceinte. Quelles sont les autres possibilités que vous proposez? Il y a également ces poupées sur la table qui sont de la taille d'un bébé normal. Ce sont des outils aussi d'approche, de manipulation.
Complètement. Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, moi je suis monitrice de portage depuis quelques années, donc je propose des ateliers aussi au domicile des familles et en collectif. Et donc ces poupons lestés, c'est des poupons professionnels qui vont permettre justement l'apprentissage du portage. Donc avant de faire des essais avec le vrai bébé, eh bien, on va faire des essais avec ce poupon lesté où je vais pouvoir... c'est des poupons qui sont vraiment fabriqués pour, qui ont la tête lestée, qui permet de reproduire vraiment les mouvements du corps du nouveau-né. Et donc les parents vont pouvoir utiliser ce poupon pour s'exercer dans la manipulation du bébé et dans l'apprentissage du portage.
Oui, c'est vrai qu'à voir, c'est très réaliste, hein, le mouvement que le bébé a.
Oui, tout à fait, oui. Il épouse vraiment la forme d'un nouveau-né. Et donc on a plusieurs aussi tailles de poupons pour proposer des ateliers pour des bébés de différents âges.
Alors vous opérez dans un local spécifique ou vous allez aussi chez les personnes ?
Alors je me déplace beaucoup à domicile dans le cadre d'accompagnement à la naissance et d'ateliers portage à domicile. Mais on propose aussi des ateliers à l'espace social avec qui on a un partenariat. Donc on propose des ateliers chaque mois ou plusieurs fois en tout cas dans l'année, des ateliers qui s'appellent Café Cocon. Où là, c'est des rencontres pour les nouveaux et futurs parents où ils peuvent justement échanger sur leurs difficultés, sur leurs doutes, sur leurs joies aussi. Et donc, ça permet une transmission aussi interparents qui est très intéressante.
Fanny, comment retrouver aussi votre association de bouche à cœur ?
Donc, on peut la trouver par plusieurs biais. On a un site internet. Est-ce que je le nomme ? C'est donc debouchacœur.webself.net et on a aussi des flyers que vous pouvez retrouver notamment à l'espace social.
Il y a l'espace social et culturel du Diwa, des relations aussi avec le monde médical. Est-ce qu'il y a d'autres structures avec lesquelles vous avez un partenariat ?
Alors non, on n'a pas d'autres partenariats. En revanche, j'ai une bonne connaissance du réseau actuellement parce que on est sur 10 depuis pas mal d'années et on pratique depuis pas mal d'années. Du coup, selon les demandes justement des familles et les besoins, moi je vais orienter les familles envers telle ou telle structure. Donc évidemment, on a la PMI, le CPP et on a également d'autres professionnels qui vont avoir des approches complémentaires aux approches médicales, notamment par exemple de l'ostéopathie quand il y a besoin, pourquoi pas du yoga, des praticiens en massage, ce genre de choses où je vais réorienter et voir aussi des psychologues. Parfois c'est nécessaire aussi sur certaines permanences qu'il y a dans des institutions, et donc je vais réorienter les personnes en fonction de leurs besoins.
Les personnes qui viennent vous voir, est-ce que pour vous, il y a une raison pour leur venue chez vous ?
Alors, c'est assez divers. Des fois, il y a effectivement un besoin d'accompagnement, avec des mamans notamment assez isolées qui vont être séparées de leur conjoint, ou alors un père qui est absent pour raison professionnelle. Et donc là, elles vont demander un accompagnement complémentaire parce qu'elles n'ont pas trop de famille. Donc ça, on le voit pas mal. Les familles qui sont isolées aussi au niveau du Haut-Diois, qui ont moins accès du coup à des événements qui peuvent se passer, etc., qui se sentent assez isolées. Donc là, ça va être justement bénéfique pour elle parce qu'on va pouvoir leur apporter un soutien dans cette solitude-là. Après, il y a des familles qui ont juste connaissance des doulas et qui ont déjà eu contact pour des grossesses précédentes, donc là, qui vont faire appel dans ce cadre-là. Ou alors, c'est des besoins très ponctuels, comme par exemple par rapport au portage ou par rapport à des questions en particulier. Donc voilà, on a soit on répond à un besoin, soit on est face à une vulnérabilité à laquelle on essaie de répondre et en complémentarité aussi des autres acteurs, parce que ça ne suffit jamais.
À votre expérience, il y a donc nécessité de faire évoluer aussi certains endroits pour cette pratique d'assistance auprès des mamans. À vos yeux, qu'est-ce qui serait nécessaire encore ?
Alors moi, je pense qu'il y a un gros trou, j'ai envie de dire, au niveau notamment de l'aide en post-natal. Il y a vraiment au niveau des familles, avec l'arrivée d'un bébé. Alors il y a des choses qui sont déjà en place, qui existent par rapport à l'aide à domicile, par exemple. Mais je pense qu'il y a un défaut d'information là-dessus. Il y a des familles qui ne sont pas au courant qu'elles ont droit à de l'aide à domicile en post-natal. Et des fois, même, ce n'est pas suffisant. Et après, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des familles qui sont isolées dans des territoires reculés, où justement, là aussi, elles ont moins accès à des propositions là-haut. Et après, le gros problème également que les familles rencontrent, moi je constate encore du stress lié aux accouchements, car les familles doivent se déplacer du coup sur les maternités qui sont à une heure de route d'ici, par rapport à Die, et du coup ça pose encore des questionnements au niveau du rapprochement, de quand c'est que je pars, et si bébé il arrive en route, enfin ce genre de choses. On est encore face à de l'inquiétude par rapport à ça. Donc on essaie d'accompagner au mieux, les sages-femmes rassurent beaucoup aussi. Mais voilà, je dirais qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là également. Ouais.
Il y a quelques années, à l'époque de la fermeture de cette maternité de Die, il y avait eu la visite du préfet M. Moutou. On se rappelle bien de cette réunion à la salle polyvalente, et où là il a émis une sorte de préjugé à l'adresse des doulas.
C'est vrai, je m'en souviens, oui. Mais je pense que c'est un métier qui n'est pas... déjà, ce n'est pas reconnu, parce que ce n'est pas quelque chose qui est reconnu institutionnellement, évidemment. Et je pense qu'il y a une méconnaissance, d'une part, de qu'est-ce que c'est une doula, une accompagnante à la naissance, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle apporte. Et d'autre part, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, des dérives aussi à des moments qui ont pu peut-être pousser des personnes à faire une généralité là-dessus. Je pense que ce qui est important, c'est de se renseigner, voir comment chaque doula travaille et de voir qu'est-ce qui est dans les clous, qu'est-ce qui ne l'est pas, et avant d'émettre un préjugé sur l'ensemble de la pratique. Parce que j'ai envie de dire, allez demander un petit peu aux parents qui ont été accompagnés leur retour par rapport à cette expérience-là. Et je pense que c'est les mieux placés pour exprimer si c'est bien ou si c'est pas bien.
Dans l'histoire, la femme enceinte qui accouche, c'est un événement, c'est aussi un moment qui touche tout le monde. Ce que je trouve étonnant, c'est aussi cet aspect médical. La maman est devenue un cas médical. Où est la nature derrière ça?
Eh bien, moi, j'ai envie de dire la nature, justement, elle est toujours présente. Hein. Nous sommes encore des mammifères et donc nous accouchons avec les mêmes besoins que les mammifères. En revanche, j'ai aussi envie de dire que l'aspect médical a permis quand même des évolutions sur des points avec justement les grossesses qui sont à risque, etc., sont gérées en sécurité aujourd'hui alors que ce n'était pas le cas avant. Et donc j'ai envie de dire qu'il faut prendre une juste mesure entre qu'est-ce qui est nécessaire dans le médical et dans quel cas je peux m'en passer si effectivement tout va bien et que je fais le choix d'accoucher autrement ou de prendre d'autres voies. Je pense que tout n'est pas à jeter ni dans un sens ni dans l'autre et qu'il y a une juste mesure des choses selon chaque cas.
Et le papa aussi participe à ces séances
Il peut, oui. Ça dépend des familles. Parfois, le papa est présent, des fois pas. Mais oui, tout à fait, le papa a vraiment sa part parce qu'il fait partie des fondements aussi de la famille. Donc effectivement, le papa y participe. On a des moments d'écoute avec lui aussi pour savoir quels sont ses besoins et pour essayer d'y répondre et créer une communication qui parfois n'est plus là dans la famille et donner des pistes de réflexion.
D'ailleurs, il y a le papa, la maman, mais il y a aussi parfois les grands-parents. Est-ce que vous les rencontrez aussi?
Alors ça arrive, mais c'est vrai que c'est rare. Ça arrive des fois quand ils passent et c'est vrai que c'est intéressant de partager avec eux sur leur vision et souvent ils racontent comment eux faisaient avec leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont pratiqué. Ça amène des discussions qui sont intéressantes sur justement comment ça a évolué aujourd'hui et avec quoi ils sont en accord et ce avec quoi ils trouvent que c'est pas justifié de faire différemment aujourd'hui. Et voilà, ça amène des discussions intéressantes effectivement.
Pour être doula, quelles sont les prédispositions? Est-ce qu'il y a une formation antérieure à celle de doula?
Non, en fait, je crois que tout le monde peut postuler une formation pour être doula. En revanche, il y a quand même la formation s'écoule sur un an, en tout cas celle que j'ai faite, hein, il y en a des moins longues. Et donc on a plusieurs modules où on va aborder une multitude de sujets concernant la grossesse, la physiologie, l'avancée émotionnelle de la femme enceinte, la place du père, l'accouchement, la période postnatale, le projet de naissance, le deuil aussi périnatal, les difficultés qui sont en postnatal rencontrées comme la dépression postpartum, le burn-out, etc. Donc on aborde vraiment une pluralité de sujets, ce qui est vraiment important dans une doula, je pense que c'est la qualité d'écoute, de non-jugement et de libre consentement, c'est-à-dire qu'on ne va pas influencer la famille dans ses choix, ce n'est pas notre place. Nous, notre place, c'est d'informer pour que la famille puisse faire des choix éclairés en fonction des informations qu'ils ont reçues.
Fanny, merci beaucoup en tout cas et bonne soirée.
Merci beaucoup.